Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous étions courbés, courbés sous le poids du péché, accablés. Accablés, n'osant même pas lever la tête, à cause de notre conscience chargée, à cause de notre culpabilité, à cause de notre révolte, à cause de notre méchanceté. Et notre conscience ne cessait de nous accuser. Nous ne savions où aller. Et nous cheminions sur les chemins de ce monde, chargés, humiliés, tristes, cherchant à nous réjouir dans la chair, cherchant à nous réjouir dans les choses du monde, mais d'une joie amère qui ne pouvait jamais nous satisfaire. Mais toi, tu es venu dans ce monde, tu as porté nos péchés, tu as ôté notre péché et tu nous as relevé la tête. Et maintenant, nous pouvons regarder en haut et contempler la gloire à venir, la porte qui nous était ouverte dans l'éternité. Seigneur, Seigneur, nous ne pouvons comprendre un si grand amour. Tu as porté nos péchés, le péché du monde entier. Seigneur, tu l'as ôté. Et désormais, nous pouvons chanter, t'adorer, te louer, te remercier. Tu as tant fait pour nous. Et tu fais encore tant pour nous chaque jour. Merci, Père. Merci pour le privilège de t'appartenir et le privilège de pouvoir ouvrir ta parole. Enseigne-nous à cette heure. Enseigne-nous encore, ouvre nos cœurs et donne-nous de comprendre, donne-nous de recevoir, donne-nous de mettre en pratique ta parole. Que ce ne soit pas lettre morte, que ce ne soit pas parole emportée par le vent, mais Seigneur, que ce soit nourriture pour nos âmes, consigne, enseignement, marche à suivre, afin de prospérer, Seigneur, et de gagner des victoires. Tu es merveilleux, sanctifie ta parole maintenant. Merci, Père. Nous lirons dans l'Évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu au chapitre 21. À partir du verset 33. C'est la même lecture que nous avions faite il y a déjà trois dimanches de cela. Ces deux derniers dimanches, nous avons eu le privilège d'avoir nos frères que nous avions envoyés à l'extérieur pour s'approfondir dans la connaissance de la parole de Dieu. Et nous sommes heureux pour la bénédiction qu'ils ont été pour nous, qu'ils seront encore pour nous, et pour le ministère que le Seigneur va leur donner au milieu de nous, dans notre pays. Nous avons besoin d'hommes de Dieu dans notre pays, des hommes qui prêchent la vérité, qui vivent la vérité, qui agissent selon la vérité, qui fassent connaître le message de la vérité. Seule la vérité nous affranchit, et cette vérité se trouve dans la parole de Dieu. Donc, il y a quelques dimanches de cela, nous avions lu ce même passage de l'Écriture, mais nous ne l'avions pas épuisé. Il y a encore à creuser là. C'est merveilleux ce qu'est cette parole de Dieu. Et ces paraboles du Seigneur sont extraordinaires, des histoires si simples mais si profondes et dans lesquelles il y a un enseignement pour notre vie, un enseignement qui nous aide à marcher et qui nous donne une nouvelle dimension dans notre vie, ici-bas sur cette terre, jusque dans l'éternité. Des consignes pour notre marche, des consignes que nous sommes appelés à suivre. Nous lisons Matthieu 21, 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et il bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les fruits de la vigne. Les vignerons prirent ses serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais quand les vignerons vinrent, virent le fils, ils se dirent entre eux, « C'est lui l'héritier. Venez, tuons-le, et nous aurons son héritage. » Ils le prirent, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront les fruits en leur saison. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est une merveille à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Mais il y a une nuance, une bonne différence entre brisement et écrasement. Celui qui refuse le brisement sera écrasé un jour et sans remède. Il est à remarquer que dans cette vigne, il y avait un pressoir. En général, nous n'aimons pas le pressoir. Le pressoir est amené à valoriser les fruits, à les transformer, à les valoriser. Mais nous, souvent, nous-mêmes n'aimons pas passer par le pressoir, pas vrai? Et pourtant, dans sa vigne, il y a un pressoir. Frères et sœurs, l'homme n'apprend rien quand tout va bien. L'homme n'apprend rien. Je suis sauvé, alléluia. Il y a des gens qui sont comme ça, vous savez. Alléluia, je suis sauvé, gloire à Dieu. Et puis leur religion, leur foi est très superficielle. Ils chantent des cantiques, c'est bien, chantez encore. Mais ils manquent de profondeur. Ils sont sauvés, c'est vrai, mais ils ont une certaine légèreté. Jusqu'à ce qu'ils passent par le pressoir. Jusqu'à ce qu'ils soient brisés. Le brisement est nécessaire. Bien souvent, nous fuyons la souffrance, et pourtant la souffrance fait partie de la vie chrétienne. La souffrance est une part de la vie chrétienne. Jésus, le Sauveur, qui est venu dans ce monde, qui s'est identifié au plus humble d'entre nous, qui a pris notre nature, notre corps, notre chair, qui a connu tout ce que nous avons connu, il avait besoin de sommeil, il avait besoin de nourriture. Nous le voyons fatigué, qui dort dans la barque au milieu de la tempête. Il était humain. Nous le voyons assoiffé, là, assis au pied d'un arbre, et qui demande « Donne-moi à boire, Jésus ». Jésus a souffert, il a pleuré au tombeau de Lazare, il était humain. Quand il a su que son corps était là et que son ami était mort, il voit tout le monde pleurer, il a dit « Jésus pleura ». Il était humain. Il n'a jamais dit « Jésus a rigolé ». Je suis sûr que Jésus avait une joie immense, une joie profonde, une joie merveilleuse, une joie que personne ne pouvait ôter. Mais une joie qui avait été engendrée par le sacrifice, le don de soi, une joie engendrée par la souffrance. Ce n'était pas cette légèreté, ces rires gras. Non, c'était une joie éternelle qui ne passe jamais. Jésus, le Maître, le Sauveur, Jésus, le possesseur de la vigne. Écoutez une autre parabole. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne. Il a acquis le terrain. Il a dépensé de l'argent pour ce terrain. Il l'a mis en valeur. Il l'entoura d'une haie pour la protéger. Il y creusa un pressoir. Il faut le pressoir. Il y bâtit une tour, il faut surveiller la place contre les maraudeurs et les voleurs. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage pour la mettre en valeur. Cette parabole de Jésus a tout à nous enseigner. Elle nous parle des privilèges dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, d'un Dieu d'amour pour ses créatures, des privilèges. Il veut nous nourrir. Il veut nous placer dans un endroit bien, valable, dans un endroit protégé, dans un endroit où nous serons nourris, où nous ferons sujet de soins particuliers. Il veut, pour cela, il a un but. Et le but est que nous portions du fruit. Véritablement, nous sommes des privilégiés, frères et sœurs, placés dans cet endroit particulier, mis à part, choisis, faisant l'objet de soins particuliers. Nous sommes des privilégiés, car nous avons beaucoup reçu, sauvés par grâce et par la foi. Nous prions, il nous entend et il nous exauce. Il pourvoit nos besoins chaque jour, il nous connaît, nous le connaissons, nous avons une relation personnelle avec lui. Bien sûr, il y a les souffrances, il y a le pressoir qui est là, mais peu importe ce pressoir, s'il permet que je passe par le pressoir, c'est pour que je ressorte raffiné, meilleur qu'avant. L'or, vous le savez, on ne peut pas l'employer tel qu'il sort du sol, il est plein d'impuretés, il doit passer par le feu, et quand il passe par le feu, alors il est purifié, alors il a une plus grande valeur, alors on peut mieux l'utiliser, et il a un éclat meilleur. Nous ne pouvons enlever la souffrance de la vie chrétienne, c'est vrai. Si Jésus a passé à travers la souffrance, à plus forte raison le disciple, car le disciple n'est pas plus que le maître, il a souffert, nous souffrirons aussi avec lui, mais pour lui qui était seul, pour nous ne serons jamais seuls. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous dans vos larmes et dans vos souffrances. Je suis avec vous dans vos besoins, quels qu'ils soient physiques ou spirituels. Je suis avec vous alors que vous êtes surchargés de toutes sortes de choses, de toutes sortes de responsabilités que vous ne savez pas comment gérer telle situation et telle autre. Je suis avec vous alors que les hommes vous rejettent et qu'ils vous critiquent de toutes parts. Je suis avec vous lorsque vous êtes décidé de marcher avec moi, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les pressions, et de faire ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est transparent, ce qui est ce que je ferai moi à votre place, alors je serai avec vous, même lorsqu'on vous rejette et qu'on vous bafoue à cause de votre foi et de votre intégrité. Je serai avec vous. Alléluia. Jamais il ne nous abandonne. Jamais. Il était seul, lui. Mais nous ne sommes jamais seuls. Souvenez-vous de cela. Même si vous vous sentez seul, vous pouvez vous sentir seul, mais nous ne marchons pas par le sentiment. Non, le sentiment nous trompe. Nous marchons selon la révélation de la parole de Dieu. Et Dieu ne peut mentir. Dieu peut tout faire, mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire, c'est de mentir. Alléluia. Alors, dans un sens, il est limité. Peut-on parler de limitation dans ce sens-là? Bien sûr que non! C'est simplement que le mensonge n'existe pas pour lui. Alléluia. Et le mensonge ne peut exister pour nous non plus lorsque nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de la lumière et la lumière paraît à travers nous. La lumière, l'intégrité, la droiture, la justice, tout cela, c'est la vérité. Oui, nous sommes des privilégiés et nous aimons les privilèges. Nous aimons avoir des privilèges, pas vrai? Des privilèges, oh là là, c'est formidable. Mais quelles sont nos motivations? Et comprenons-nous nos responsabilités? Il y a une chose que nous devons savoir. Si nous avons des privilèges, nous aurons des responsabilités qu'engendrent ces privilèges. Dans notre monde d'aujourd'hui et dans notre pays, combien d'hommes dans le passé que nous avons connus qui ont connu et qui ont été dans des places importantes, entre guillemets, et qui, à cause de cela, ont joui de privilèges. Et pourquoi pas? Pourquoi pas honorer un homme qui a une grande place élevée? Pourquoi pas honorer cet homme? Il a droit à sa voiture, il a droit à sa maison, il a droit à son salaire. Mais trop souvent, ces hommes-là ont oublié que les privilèges engendrent des responsabilités. Eh bien, souvent, on a négligé les responsabilités et on n'a vu que les privilèges. Déséquilibre qui amène la destruction. On a voulu les privilèges. On a abusé des privilèges. On s'est octroyé des privilèges indûment. mais les responsabilités n'ont pas été remplies. On n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités. On n'a pas servi. On s'est conduit comme des monarques au lieu de se conduire comme des serviteurs. Jésus a bien dit, il a bien dit que le plus grand, c'était le serviteur. Et ça, nous l'avons refusé. Parce que nous n'avons pas compris le principe juste. Tu as des privilèges à cause de tes responsabilités. Remplis-tu tes responsabilités et le fais-tu comme un serviteur. Frères et sœurs, si ces principes de base sont compris, sont saisis, sont vécus, la société serait différente. Mais chacun veut se conduire comme un petit monarque et la plupart du temps comme un dictateur dans son domaine. Un dictateur dans son bureau, un dictateur dans ses responsabilités qu'il ne remplit même pas. Il ne veut que les privilèges. Mais nous devons comprendre dans le contexte biblique, ça, nous le tirons de la Bible, frères et sœurs. Croyez-moi, la parole de Dieu, c'est le meilleur enseignement pour toute société, quelle qu'elle soit. Il y a une juste demande pour le fruit. Oui, car il y a évaluation. Évaluation. Dieu nous donne des privilèges. Avec ces privilèges, des responsabilités. Et ces responsabilités demandent à ce qu'il y ait une évaluation et que des comptes soient rendus. Voilà. Des comptes soient rendus. Sachons-nous tous, quel que soit notre niveau de responsabilité, nous aurons des comptes à rendre. Et si ce n'est pas à des hommes, ce sera à Dieu. C'est juste qu'on demande des comptes, c'est juste. Vous avez géré pendant tant d'années telle société. Vous avez géré pendant tant d'années tel département. Vous avez géré pendant tant d'années telle chose. Les comptes. Il n'y a rien à dire. Ce n'est que juste. Des comptes. Qu'avez-vous fait dans telle situation? Qu'avez-vous fait dans telle autre situation? Qu'avez-vous fait avec cet argent? Qu'avez-vous fait avec ce capital? Qu'avez-vous fait avec ce bien? Si les hommes peuvent le demander à plus forte raison, le Dieu puissant le demandera un jour à vous comme à moi. Je t'ai donné à gérer cette vigne, là, dans ce territoire, dans cette place où je t'ai mis, là, je t'ai laissé toute liberté. Je suis parti dans un pays éloigné. Comprenez ça? Dites-moi, c'est un ange qui vous prêche ce matin? Non, pas encore. Il sera un ange un jour, mais pas encore. Non, Dieu n'envoie pas tous les mois ou tous les trois mois un ange est pour demander comment ça se passe pour la gérance de l'église de la borne, de ce morceau de sa vigne, n'est-ce pas? Il n'envoie pas un ange tous les certaines périodes, une fois par an, n'est-ce pas, pour rassembler, demander des comptes, comment vous avez géré? Non, 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 pas du tout. Il a donné des responsables. Toi, tu apportes la parole. Toi, tu gères l'argent. Toi, tu gères tel domaine ou tel autre domaine. Et puis un jour, je vous appellerai devant moi parce que ce morceau de terrain m'appartient. Je l'ai acquis par mon sang à un prix très élevé. Et ce que je veux, ce que je demande, c'est que ça produise. Le jour vient où je vais évaluer votre travail, chacun selon la responsabilité. Car je vous ai donné des privilèges, mais ce privilège engendre une responsabilité. Comprenons que nous sommes des privilégiés. Comparez les gens du monde autour de nous comme ils vivent. Quels sont leurs espoirs? Ils sont dans la magouille jusque par-dessus la tête, dans la corruption, dans le péché. Ils ne sont jamais satisfaits, ils veulent toujours autre chose, toujours plus, toujours une autre femme, toujours un autre mari. Lorsque nous étions dans cette atmosphère-là, nous ne pouvions marcher. Alors, il a acquis ce terrain. Alors, il nous a transplantés. Alors, il nous a mis dans des conditions favorables. Sortez du milieu d'eux, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ne restez pas là dans cette corruption. Sortez du milieu d'eux. Il nous appelle à être différents. Il y a une juste demande pour des comptes, une juste demande pour le fruit. Le fruit ne dépend pas de Dieu. Voilà ce que j'aimerais que nous comprenions. Le fruit ne dépend pas de Dieu. Dieu nous met dans des circonstances favorables afin que nous portions des fruits. Si le plant de la vigne ne porte pas de fruits, ce n'est pas la responsabilité du maître de la vigne, car tout a été fait de sa part. Voilà. Le maître de la vigne a tout fait. Il a envoyé son fils dans le monde. Il a envoyé ses serviteurs. Il a acquis la terre. C'était d'abord Israël, son peuple, à travers lequel il s'est révélé au monde. C'était d'abord ce peuple, issu de la race, de la foi d'Abraham, à cause de sa foi en un Dieu unique. Il a choisi ce peuple pour se révéler au monde. Il y a eu des étapes dans la révélation, des étapes merveilleuses. Nous sommes arrivés au bout de la route. Le maître sera bientôt là. Son fils a déjà été envoyé. Son fils est déjà mort. Mais il patiente, il patiente, il patiente encore. Il parle, il parle, il parle encore. Qui peut comprendre si grand amour? Ce n'est pas la responsabilité du maître que de porter du fruit. C'est la responsabilité du plant de vigne. Vous vous souvenez de cette parabole duquel nous avons déjà parlé ici? Le maître de la vigne vient chercher du fruit et n'en trouvant point, il dit au vigneron, coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? C'est un inutile, enlève-le! Et le vigneron de dire, maître, laisse-le encore cette année, je vais creuser tout autour, je vais y mettre du fumier. Peut-être, à l'avenir, portera-t-il du fruit. Moi, ça m'a beaucoup enseigné ça. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Pourquoi? Le fruit ne dépend pas du vigneron. Le fruit dépend de ce plant-là. Tout a été fait pour qu'il produise du fruit. Privilégié par-dessus tout. Dieu demande des comptes. Le jour vient où Dieu nous demandera des comptes à chacun d'entre nous. Israël était privilégié à cause de la foi d'un homme, d'Abraham, nous l'avons dit, choisi pour révéler au monde le Dieu unique. Israël a failli de produire le fruit attendu de lui. Mais Israël était un instrument dans les mains de Dieu. Malgré ses faiblesses, malgré sa faillite, au milieu d'Israël, il y a eu toujours des hommes de Dieu qui ont réagi, des hommes de Dieu qui ont parlé. Ils ont souvent parlé au prix de leur vie. De Israël est sorti Jésus. Jésus le Messie. Jésus le Fils rejeté. Le Fils tué. De Jésus est sorti l'Église, ce corps spirituel, ce peuple spirituel qu'il s'est acquis par son sang. Jésus, le Messie, ils ne l'ont pas reconnu, alors même que leurs Écritures en parlaient. Sachant que le bon fruit ne peut être produit que dans la limite de la vigne. Encore une chose à apprendre. Le bon fruit ne se produit pas hors des limites de la ville. Le bon fruit se produit dans les limites de la ville, de la vigne, dans les limites de la structure mise en place par Dieu, c'est-à-dire dans les limites de son Église, de son Église. C'est pas de l'Église de telle personne ou de tel groupement ou de tel ministère indépendant ou de telle organisation. Non, mais de son Église, de cette Église acquise par son sang. Et qui est dans cette Église? Ceux qui ont cru par grâce et par la foi dans le sang de Christ, qui ont été sauvés. Ils sont dans cette structure. Je ne crois pas aux indépendants. Les indépendants ne veulent simplement pas donner de compte, ne veulent simplement pas rendre de compte à qui que ce soit, et ils veulent faire ce qu'ils veulent. Non! Je ne vois pas ça dans la parole de Dieu. Je vois une structure. Je vois une limite à cette terre. Je vois une organisation intérieure. Je vois les plants plantés là. Je vois le vigneron qui essaye, qui fait tout son possible pour que les plants puissent produire, pour les nourrir, pour les garder. N'est-ce pas malheureux que ces vignerons qui ne veulent donner de compte à personne, qui ne veulent donner de compte à personne et qui veulent être, ne pas être surveillés par qui que ce soit et faire simplement ce qu'ils veulent, l'argent de l'Église, c'est à eux. Les biens de l'Église, c'est à eux. Mon Église, mes biens. Il y en a même qui prennent toutes les dîmes, ils disent tout ça, les dîmes, ça c'est la dîme du pasteur, ça c'est le salaire du pasteur. Rien n'est organisé du reste, quand vous les voyez. Il y a de compte qui est donné à personne. C'est simplement leur affaire personnelle. C'est leur ministère personnel. Alors ils mettent leur nom, ils attachent leur nom à ce ministère-là. C'est mon ministère. C'est mon église. C'est mon affaire. Mais je ne vois pas ça là. Je ne vois pas ça. Le bon fruit ne peut être produit que dans les limites de la vigne, dans les limites de la structure mise en place par Dieu, dans son Église. Jésus insistait toujours pour les vraies valeurs. Il y a toutes sortes de valeurs dans le monde, des valeurs moindres, des valeurs plus grandes, mais des valeurs dans le monde qui périssent, qui passent. Alors Jésus faisait un gros effort pour attirer l'attention de ses disciples sur les valeurs qui demeurent. Dans Marc 8, 36, il disait, « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Ah, autrement dit, l'âme a plus de valeur que le monde entier, avec ses richesses, ses biens, son or, ses diamants, ses valeurs. Car toutes les valeurs du monde entier sont périssables, mais ton âme n'est pas périssable. Ah, voilà une vérité. Ensuite, à ceux de ses disciples qui cherchent dans la pêche les valeurs périssables, c'est-à-dire ce que peut rapporter la pêche, le poisson et le commerce du poisson, Jésus disait dans Matthieu 4, 19, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Il y a une pêche plus valable que celle-là. Eh, moi, je veux vous utiliser pour faire cette pêche, car chaque âme d'homme est une valeur éternelle. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Quand la moisson du blé approchait, il disait, « Il y a une autre moisson à laquelle je vous appelle à participer, dans Jean 4, 34. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. La moisson est nécessaire pour la saison. » La saison, on va manger le pain, et après, quand il n'y aura plus de pain, il faut ressemer, et il faut encore une autre moisson. Mais, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour cette moisson qui aura lieu une fois pour toutes. Les âmes qui ont plus de valeur que n'importe quelle autre. Jésus nous ramène toujours à ce qui a le plus de valeur, à ce qui est prioritaire, à ce qui est meilleur. Alléluia. Frères et sœurs, cherchez ce qui est meilleur. Dieu veut que cette place, Dieu veut que cette vigne, Dieu veut que cette terre acquise à grand prix produise pour le royaume des cieux. Nous sommes libres dans le cadre, dans ce cadre, dans le cadre de nos obligations. Écoutez. Liberté ne veut pas dire pas d'obligation. Tellement d'hommes et de femmes ne comprennent pas ce mot de liberté. Non. Libre, oui, mais avec des obligations. Nous avons des obligations envers Dieu. Nous avons des obligations envers notre prochain. Il nous a appelés à la liberté, oui, mais nous avons des obligations. Privilège et liberté. Ce sont des belles paroles que les hommes aiment à prononcer et qu'ils aiment à réaliser. Mais n'oublions pas que privilèges et obligations exigent de nous privilèges et liberté, pardon, exigent de nous responsabilité et obligation. Voilà. Privilèges, liberté, d'accord. ce qui engendre responsabilité et obligation. Mais bien souvent, la responsabilité, nous ne voulons pas la remplir, ou nous ne lui donnons pas priorité, et nous négligeons les obligations que nous avons vis-à-vis de nos prochains et vis-à-vis de Dieu. La vigne appartient à Dieu. Il en a fertilisé la terre. Il la protège. Il y plante une clôture. Il y met d'excellents plants. Il nous la remet à gérer. Et il s'en va. Nous devons lui rendre des comptes. C'est à lui, ce n'est pas à nous. Nous devons rendre compte de notre gérance de ces biens, de notre travail. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, mais nous travaillons pour le royaume des cieux. Il serait insensé de rejeter la responsabilité attachée à nos privilèges et à notre liberté. Dieu a acquis la terre. Dieu l'a préparée. Dieu en a déterminé les limites. Dieu a mis les plants sélectionnés dans cette terre. Dieu a envoyé ses messagers et ses prophètes. L'histoire telle que nous la voyons dans le monde, telle qu'elle nous est enseignée dans nos écoles et à l'université, l'histoire n'est pas le fait du hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. L'histoire de notre pays, du Congo, du Zaïre et du Congo à nouveau, n'est pas le fait du hasard, mais c'est le résultat d'un but recherché par Dieu. Tous les grands hommes qui ont fait du bien à l'humanité, et même ceux qui ont fait du mal, ne sont pas le fruit du hasard, ne sont pas un accident de l'hérédité, ou des circonstances, ou de l'environnement. Mais ils sont le résultat d'une volonté suprême qui les a suscités, qui les a envoyés, qui les a autorisés, qui les a poussés pour un certain but, pour une bénédiction ou pour un jugement. Ah, lisez dans la Bible. Dieu a appelé des peuples mauvais et méchants pour envahir sa nation qui s'était tournée contre lui, qui avait tourné son dos et qui était adorateur des idoles. Il employait ses peuples païens et mauvais, sans scrupules et sans cœur, pour détruire, pour brûler, pour prendre en esclavage. Mais après, il a puni ses peuples et il a rétabli son peuple. Dieu est souverain. Frères et sœurs, qu'allons-nous faire dans notre nouvelle situation du Congo? Avons-nous appris la leçon? Nous étions tous des idolâtres pendant combien d'années? Et maintenant, nous avons tourné une page. Mais qu'allons-nous faire et qu'allons-nous écrire sur cette page? Sera-ce bénédiction ou sera-ce malédiction? Allons-nous retomber dans le culte de l'homme ou allons-nous mettre l'homme à sa place et Dieu à sa place? Nous devons respecter toute autorité, car l'autorité vient de Dieu. Lui rendre honneur et lui reconnaître ses privilèges. Mais cette autorité doit démontrer son sens du service, car il est serviteur au nom de Dieu, pour le bien des autres. Bénédiction ou malédiction, qu'avons-nous devant nous? Quand je vois, excusez-moi de le répéter, mais je le répéterai encore bien des fois, quand je vois ce qui se passe à Brazzaville, les canons qui tonnent et qui tonnent encore, les milliers de morts et les destructions, tout cela aurait pu nous arriver à nous ici, dans notre ville. Il y avait bien plus d'armes que là-bas. Il y avait bien plus d'hommes que là-bas. Mais Dieu ne l'a pas voulu. Miséricorde! Qu'allons-nous faire avec la grâce qu'il nous a donnée maintenant? Si nous la méprisons, cette grâce, le jugement qui tombera. Seigneur, enlève-moi, je ne veux pas être là. Réfléchissons, frères et sœurs, nous sommes à un tournant maintenant. Et c'est maintenant que nous devons donner un nouveau départ à la nation. Dieu n'est pas impotent comme une idole. Une idole, il faut la porter. Encore dernièrement, on voyait sur les nouvelles, n'est-ce pas, des statues que l'on porte, n'est-ce pas, dans des processions et tout ce que vous voulez. Ça fait pitié. Elle ne peut pas marcher, il faut la porter. Elle ne peut pas s'habiller, il faut qu'on l'habille. On va lui mettre toutes sortes de trucs précieux, tout ce que vous voulez, mais une idole. Mais Dieu n'est pas une idole. Il crée et il détruit. Il établit et il destitue. Il fait vivre et il fait mourir. Mais sachons qu'il est un Dieu de miséricorde, lent à la colère et riche en bonté. Il aime et veut sauver sa création. Il place ceux qui viennent à lui dans un lieu choisi. Il les place dans un lieu protégé, dans un lieu privilégié. Rendons-lui ce que nous lui devons. Nous devons quelque chose à Dieu, privilégiés que nous sommes. Dieu demande du fruit. Il envoie ses serviteurs pour chercher du fruit. En fin de compte, il envoie son propre fils. Là, nous touchons à l'histoire d'Israël. Les serviteurs, n'est-ce pas toute cette multitude d'hommes de Dieu, de succession, de prophètes qui sont venus en Israël et qui ont été rejetés et bafoués. Lequel d'entre eux n'a pas été persécuté? Dans Luc 11, 49 à 50, Jésus disait, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns, persécuteront les autres, afin qu'ils soient demandés compte à cette génération, demandez compte, vous voyez, vous le trouverez toujours dans la parole, à cette génération du sang de tous les prophètes, qui a été répandue depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie tué entre l'autel et le temple. Et dans Matthieu 23, 37, lorsque Jésus contemplait Jérusalem, il s'est écrié « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois n'ai-je pas voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. » Le Fils. Enfin, il envoya vers eux son Fils en disant « Ils auront du respect pour mon Fils. » Non. Ils n'ont pas eu de respect pour le Fils. Oh, la patience de Dieu! Le jugement ne touche pas dès l'instant où l'offense est commise. N'oublions pas cela. Ça ne veut pas dire que lorsque vous avez commis une offense, aussi élevée soit-elle, aussi grande soit-elle, que parce que la punition et la rétribution n'est pas tombée immédiatement, qu'elle ne tombera pas. C'est seulement la patience de Dieu. Dans Marc 11, 6, il est dit, il avait encore un fils bien-aimé. Vous voyez la dimension que nous donne Marc. Un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier. C'est comme s'il disait, Élisée, Zacharie, Jérémie, Esaïe, Jean-Baptiste, Paul, et tant d'autres encore, une longue liste, étaient des prophètes, et plus que des prophètes. Ils ont été envoyés, mais vous les avez méprisés. Vous les avez tués, vous les avez rejetés, vous les avez persécutés. Ils étaient serviteurs du Très-Haut. Vous les avez humiliés, abaissés, calomniés, tués, oubliés. J'envoie mon Fils. Peut-être que vous le recevrez. C'est ma dernière tentative. Après cela, je sévirai. Oui, il y a bientôt 2000 ans. 2000 ans. Il sévira, oui, très bientôt, frères et sœurs. Le jour des comptes arrive. Jésus, Dieu en chair, est venu pour sauver. Jésus, la manifestation de Dieu en chair. Jamais le monde n'avait vu une telle souveraineté au milieu d'une telle bassesse. Son peuple n'a pas voulu le reconnaître, pas plus que les messagers, que le propriétaire de la vigne leur ont envoyé. Ils se sont accrochés à cette parole qui se trouve dans Deutéronome 6, 4. L'Éternel notre Dieu est un seul Seigneur. Oui, c'est vrai, c'est un seul Seigneur. C'est vrai. Mais ils n'ont pas reconnu que celui qui avait été envoyé, c'était le Messie. Et que le Messie, c'est Dieu en chair. Et ça, ils l'ont pas voulu le reconnaître. Ils ne voyaient, ils ne cherchaient qu'un Messie, un Messie humain qui serait un grand chef politique, qui les libérait du joug romain et qui leur donnerait suprématie. Non, Jésus est venu pour plus que cela. Plus! Le Messie était attendu, mais ils n'ont pas su le reconnaître. Le Messie n'est pas un autre que Dieu lui-même. Ils n'ont pas voulu le reconnaître car il est venu humble, il est venu petit, il est né dans une étable. Il a marché sur les routes du pays à pied. Jésus, plein de grâce, plein de vérité. La parole devint chair et habita au milieu de nous. Nous avons vu alors sa puissance, son autorité, sa parole. Il commandait et l'aveugle voyait. Il touchait et le lépreux était guéri. Il parlait et le mort ressuscitait. Il était homme, mais il était maître. Il était maître, mais il était prophète. Et il était plus que cela encore, sauveur. Ses titres pour le qualifier sont bien faibles, bien inadéquats, car il est beaucoup plus que tout cela. Il est Dieu lui-même venu en chair. Ceux qui l'ont connu ont dit, nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Il est l'infaillible parole de Dieu, la parole qui était faite chair, créateur. Il est le propriétaire. Le roi leur envoya ses serviteurs et en dernier son fils. Fils, pourquoi? Y a-t-il deux dieux? Non, il n'y en a qu'un. Mais c'est le Dieu créateur qui est devenu chair. En devenant chair, il est devenu fils. Je le répète et je le répéterai encore. L'amour de Dieu. Dans ce récit, nous y voyons l'amour persistant de Dieu jusqu'au sacrifice. Un amour si grand qu'il ne recule devant aucun sacrifice. Dieu est le véritable sujet de cette histoire. Il a planté le jardin, il l'a aménagé, il l'a confié à des hommes pour le mettre en valeur. Il envoie ses serviteurs pour y chercher du fruit. Ils sont chassés, ils sont battus, ils sont tués. Quelle patience ne manifeste-t-il pas? Il envoie son propre fils, sa propre chair, espérant toujours ne pas devoir intervenir par la force et par le jugement. Dieu ne veut pas nous détruire, Dieu ne veut pas nous jeter en enfer. L'enfer n'a jamais été fait pour l'homme. Mais nous le forçons à sévir. Nous parlons du Dieu Tout-Puissant, mais là nous voyons comme un Dieu battu. Son serviteur est battu. Son serviteur est mis à mort. Son serviteur est rejeté et bafoué. Où est le Dieu Tout-Puissant? Oui, Tout-Puissant. Tout-Puissant ne veut pas dire des armes sophistiquées à la main. Tout-Puissant ne veut pas dire écraser son ennemi. Il nous a montré ce que c'était la véritable toute-puissance. Il a manifesté envers une humanité qu'il veut sauver sa toute-puissance. Et cette toute-puissance manifestée, c'est sa grâce et c'est son amour. C'est là que nous voyons la toute-puissance de Dieu, dans sa volonté de sauver. Son but est une humanité sauvée, et non écrasée, et non détruite. Il envoya son Fils. Ça, c'est la toute-puissance de l'amour. Son amour est plus grand que sa colère. Son amour est plus grand que ses jugements. Il est l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Malgré cela, il a poursuivi son but, qui est de susciter une nouvelle humanité, qui le sert en vérité, qui le sert en obéissance. Qu'allons-nous faire au Congo? Pourquoi rejetèrent-ils l'amour, la grâce et les bonnes intentions du Maître et toutes les tentatives? Pourquoi? Ils connaissaient sa volonté. Ils avaient un contrat. Ils avaient un accord. Sa parole est connue. Sa parole est enseignée. Ils ne sont pas ignorants. Il y a la connaissance du bien et du mal. Il y a la conscience qui parle. Ils savent. Et ils disent eux-mêmes, c'est l'héritier. Ils ne sont pas ignorants. Donc, l'héritier a quelqu'un qui est au-dessus de lui, à qui appartient la terre. Ils le savent. On n'ignore pas la raison de sa venue. On n'ignore pas ses revendications. Mais ces hommes sont victimes de leur propre volonté, de leur propre cupidité. Ils considèrent que la vigne est à eux. Ils considèrent que le fruit est à eux. Ils considèrent que la gloire et la renommée est à eux. Nous avons cultivé. C'est notre vigne. Nous allons garder l'héritage pour nous. N'est-ce pas l'attitude que nous avons trop souvent nous-mêmes? Nous sommes des voleurs. Nous voulons voler la gloire de Dieu. Nous volons l'argent de l'Église, comme je l'ai mentionné déjà tout à l'heure. Nous nous volons les membres les uns aux autres, c'est pas vrai? Nous nous volons les églises, nous nous volons les places, nous volons l'argent, nous volons la gloire qui revient à Dieu seul, et on tue par la langue, on détruit par la langue. C'est mal, frère. Souvenez-vous, il n'y a qu'une seule vigne, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. On veut garder l'héritage pour soi. On veut se faire un nom. On veut prendre la gloire qui appartient à Dieu et qui ne nous appartient pas. S'il nous a placés là pour cultiver la vigne, c'est simplement pour être des serviteurs. Ce n'est pas pour être des maîtres. La gloire revient au maître. La terre est à lui. Le plan est à lui. Nous voulons profiter de la vigne. Arrêtons de profiter de la vigne. Elle n'est pas à nous. Sans reconnaître, nous ne voulons pas reconnaître le véritable possesseur, celui qui est au-dessus de tout. L'église de la borne n'est pas mon église, c'est l'église du Seigneur. Les biens de la borne ne sont pas mes biens, c'est les biens du Seigneur que je dois gérer, que nous devons gérer. Que dis-je, je dois? Nous devons gérer. L'argent de la borne n'est pas mon argent ou notre argent. C'est l'argent du Seigneur qui doit être géré avec sagesse, discernement, intelligence. Car celui qui est au-dessus demandera des comptes. Nous ne sommes rien sans lui. Que pouvons-nous faire? Reconnaissons-le et rendons-lui ce qui lui revient. Ce qui lui est dû, qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Quand on rejette l'amour, il ne reste que le jugement et la colère. Il attend et il attend encore. Frères et sœurs, ne nous rendons pas coupables de nous attribuer quelque chose qui n'est pas à nous. Soyons des serviteurs qui rendent compte à leur maître. Baissons la tête. Seigneur, encore, tu nous enseignes par cette parabole, Seigneur. Tu nous enseignes et tu nous parles. Seigneur, ce n'est pas une entreprise légère que celle dans laquelle nous sommes engagés. Ce n'est pas une chose légère que tu nous demandes d'accomplir. Donne-nous d'être conscients de nos responsabilités. C'est vrai. Nous avons des privilèges, de grands privilèges. C'est vrai, nous avons une liberté, une grande liberté. Mais ceci demande des obligations et une responsabilité. Aide-nous, Seigneur, à avoir les justes motivations dans notre travail et à rechercher ta gloire. Seigneur, s'il te plaît, dans ce morceau de la vigne que tu nous as confié, aide-nous à comprendre ce plan établi par toi. C'est toi qui es le maître. Et à toi, nous devons rendre compte. Et à toi, nous devons apporter les fruits de la vigne. Car le fruit de la vigne t'appartient. Ce n'est pas à nous. Aide-nous à comprendre, Seigneur. Aide-nous à obéir et à marcher dans la vérité et dans la lumière. Loin de la cupidité, loin de l'hypocrisie, loin de la vaine gloire humaine. Ô Jésus, tu nous as parlé encore ce matin, Seigneur. Veuille sanctifier ces offrandes que nous voulons t'apporter maintenant. Que ce soit l'expression de corps reconnaissant, changé, transformé par la grâce. Seigneur, au milieu de notre pauvreté, nous te retournons ce qui est à toi, Seigneur. Ces dîmes et ces offrandes, expression de notre amour, afin que cet évangile puisse parcourir encore nos rues et nos villes et nos campagnes. Sanctifie cette offrande, nous t'en prions. Merci, Jésus.
Nous allons reprendre le cantique, le dernier cantique que nous avons chanté pendant l'adoration. C'est le 280 dans le recueil des chants.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.